Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal René Dintibonera Idi Amin.
Vous êtes nombreux à suivre Radio Kapi à la une de cette édition. La RDC s'engage à tout mettre en œuvre pour préserver la mémoire de ces millions de citoyens tués à des fins économiques. Pour atteindre cet objectif, le chef de l'État insiste sur des piliers essentiels, la vérité et la justice. Mais qu'est-ce que les génocostes, cette journée de commémoration célébrée chaque année? Réponse dans ce journal. Plusieurs villages se vident de leurs habitants dans les grands Kassai et les grands Bandundu. Confrontés à des conditions de vie difficiles, certains tentent les tout pour les tout en voyageant sur les toits des voitures avec pour objectif de rejoindre les Katanga, considérés comme un Eldorado. Ce matin, nous recevons Jean-Pierre Loukodji qui pilote un projet de réparation gratuite de fustules obstétricales en faveur des femmes du Kassai oriental. C'est lui l'invité. Nous commençons cette édition par le gouvernement congolais qui s'engage à faire préserver la mémoire du peuple et à faire avancer la justice sous l'impulsion du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé dimanche Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a lancé ses messages à l'occasion de la journée du Génocoste, cérémonie qui s'est justement tenue au site mémorial du Génocoste situé dans la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. C'était en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les membres du gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'artistes ainsi que des survivants et des victimes du génocide congolais. Les propos du président de la République Félix Tshisekedi ont été recueillis par Ella Chembalou.
Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aucun peuple ne peut bâtir un avenir solide en détournant le regard de son histoire. Pour la nation congolaise, ce souvenir ne signifie pas demeurer prisonnière de la douleur. La mémoire n'est ni le culte du passé, ni l'entretien des blessures. Elle est une œuvre de vérité, une exigence de justice et un rempart contre le retour des atrocités. De Kasika à Makobola, de Shabunda à Kamituga, de Bukavu à Uvira, de l'Ituri au Nord Kivu, du Sud Kivu au Maniema, du Tanganyika au Kasaï, pour ne citer que ces lieux, notre territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité. Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, sans reconnaissance des souffrances, ni de justice. C'est pourquoi le gouvernement de la République est engagé sous mon impulsion à faire progresser avec méthode, constance et détermination ces deux exigences indissociables, préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice.
Mais que signifient les termes Génocoste commémorés le 2 août de chaque année en République démocratique du Congo? Nous savons déjà que c'est une abréviation signifiant génocide congolais pour des gains économiques et la date du 2 août a été choisie en référence au déclenchement de la deuxième guerre du Congo, le 2 août 1998, marquant ainsi les débuts d'une longue série de conflits armés tragiques. Quel est le vrai sens alors du terme Génocoste? Tentative de réponse avec
dans le lexique congolais, le génocoste désigne l'ensemble des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles systématiques et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés sur les sols congolais. La particularité de ces violences ayant coûté la vie à des millions de personnes, particulièrement dans l'est du pays, réside dans le fait qu'elles sont motivées et entretenues par la convoitise et l'exploitation illicite des ressources naturelles et minières de la RDC. Cette journée vise à rendre un hommage aux millions des martyrs congolais et à briser le silence autour de l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne de l'humanité. À travers cette commémoration, la RDC attend exiger la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment à travers le travail du Fonarev, et réclamer la création d'un tribunal pénal international pour juger ces crimes. Elle se propose également de sensibiliser la communauté internationale, souvent qualifiée de silencieuse ou complice face à cette tragédie, et de mobiliser des représentations diplomatiques de la RDC à travers le monde afin d'obtenir la reconnaissance officielle de ces génocides.
Parlons toujours génocide, mais dans la province du Maniema, à Kindu, c'est la plateforme d'action de la jeunesse congolaise qui exige que justice soit faite en faveur de toutes les victimes. Réunies autour de bougies allumées à la place Kadeko, cette plateforme demande à la communauté nationale et internationale, notamment la reconnaissance officielle du génocide et la réparation des victimes. Ramazani Muteba, point focal de cette plateforme, s'est confié à Florence Kizalunga.
La journée du 2 août, pour nous, c'est une journée très spéciale, puisque d'abord, c'est une journée de mémoire. De mémoire, pourquoi? Parce que on ne peut jamais bâtir le Congo en oubliant plus de 6 millions de Congolais déjà disparus. Derrière les 6 millions, il y a des mamans violées, il y a des enfants qui avaient beaucoup d'avenir, il y avait aussi des papas, mais tout, ils sont partis. On les a ôté la vie sans leur consentement. Au-delà de la mémoire, c'est une journée également de la vérité. La vérité, pourquoi? Parce que nous devons dire à la communauté internationale, mais également à tous les Congolais, que ce qui se passe au Congo, c'est pas une guerre ethnique, c'est un massacre. Donc, c'est un génocide pour des gains économiques. Donc, on nous tue, c'est parce qu'on a une terre un peu riche. C'est un pays solution. C'est à cause de ça que les impérialistes, peut-être les bourreaux, accentuent des rébellions au Congo pour nous tuer. C'est aussi une journée pour exiger la justice, que la justice soit faite à toutes les victimes, mais également que les bourreaux au niveau national, mais également au niveau international, que tous ces bourreaux-là répondent de leurs actes. Au-delà de ça, c'est aussi un message, ne plus jamais. Plus jamais, ça veut dire les enfants que nous nous mettons au monde ne vivent pas ce que nous vivons aujourd'hui.
Nous allons nous rendre maintenant dans les grands Kasaï et les grands Bandundu. Dans cette région, plusieurs habitants de ces deux provinces quittent Mbujimayi et Ngandajika pour se rendre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ou Kolwezi dans le Lualaba. Plusieurs raisons sont vraiment signalées, il s'agit réunification familiale, recherche du bien-être ou poursuite des études. En tout cas, les motivations sont diverses, mais sur le parking, les conditions de voyage restent difficiles. La mairie de Mbujimayi affirme contrôler systématiquement les déplacements effectués en compagnie des enfants, et là c'est quand ils font parler de parents. Esther Ndalafina signe ses reportages.
Pendant la saison sèche, des véhicules privés venus de Lubumbashi et Kolwezi acheminent des produits manufacturés vers Mbujimayi et Ngandajika. Au retour, ils transportent de nombreux passagers du Grand Bandundu et du Grand Kasaï déterminés à rejoindre le Haut-Katanga par la route. Mbujimayi demeure le passage obligé de ces convois, mais les conditions de voyage sont jugées déplorables. Madeleine Zeba, mère de ses enfants, quitte son territoire natal de Katanda pour rejoindre son mari à Lubumbashi. Elle affirme que la vie est devenue intenable.
Si tu as un peu d'argent, tu peux te débrouiller et manger avec les enfants. Ce n'est pas le cas ici.
Un autre voyageur dit partir pour améliorer ses conditions de vie.
Partir
dans les mines. Actuellement, il n'y a plus de mines. Si je ne parviens pas à entreprendre là-bas, je vais rentrer ici.
Anton Alula, venu de Lufira, évoque un exode massif.
Notre village est resté vide. C'est du côté de Lufira. Près des 10 villages se sont vidés.
Swana Swana, jeune étudiant, venu de Kikwit se rend à Lubumbashi pour poursuivre ses études.
Je pars étudier là-bas. Mon grand frère, il m'appelle aussi d'aller étudier là-bas.
Ces déplacements se font dans des conditions précaires. Des hommes et des jeunes garçons voyagent parfois sur les toits des véhicules qui transportent plus de 100 personnes, femmes et enfants compris. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Nous allons laisser ceux-là qui partent à Lubumbashi. Nous parlons d'une autre forme d'évasion cette fois-ci. C'est la suite du dossier de la fuite de près d'une cinquantaine des détenus de la prison de Luebo. Nous sommes le week-end. La nouvelle société civile congolaise de ces territoires dits Kasaï tire la sonnette d'alarme. Ces fugitifs constituent un danger pour la communauté, indique cette structure dans un plaidoyer adressé au gouverneur de la province dits Kasaï. Ce n'est pas tout. L'organisation réclame aussi une enquête indépendante pour établir les responsabilités, retrouver ces évadés, réhabiliter la prison centrale de Luebo et renforcer les dispositifs de sécurité. Détail avec André Katenengalamouloumé.
Selon l'organisation de la nouvelle société civile congolaise, les fugitifs ont brisé les cadenas extérieurs, forcé une porte en tôle, puis cassé une porte en bois avant de prendre la fuite. La prison comptait 50 détenus. Les deux femmes incarcérées dans un autre bâtiment plus sécurisé ne se sont pas évadées. La nouvelle société civile congolaise attribue cette évasion au mauvais état des infrastructures de la prison et réclame une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Jusqu'à présent, aucun évadé n'a été retrouvé. L'organisation dénonce aussi les dysfonctionnements de la justice à Luebo. Elle affirme que le tribunal de grande instance et le tribunal de paix siègent rarement faute de magistrats. La société civile demande enfin la réhabilitation urgente de la prison, l'arrestation des évadés, l'affectation des nouveaux magistrats à Luebo et les renforcements de la sécurité pour éviter les évasions qui sont récurrentes à cette prison. Kananga, André Katendengala Mulumi, Radio Okapi.
Autre nouvelle avec cette question. Air Congo et Congo Airways, deux compagnies nationales, évoluent-elles pour un même ciel congolais? En tout cas, depuis peu, le ciel congolais est traversé par une singularité aussi économique et politique. La coexistence des deux compagnies aériennes, Air Congo et Congo Airways, toutes deux revendiquées comme appartenant à l'État congolais. Face à cette situation, de nombreux Congolais s'interrogent sur le rôle, les périmètres d'action et la viabilité de ces deux sociétés publiques. Pour éclairer le public sur cette configuration inédite, Radio Capi lance une série de reportages consacrés à l'exploitation actuelle de ces deux compagnie. Ces premiers volets d'ailleurs s'intéressent à la ligne de démarcation réelle entre Air Congo et Congo Airways. Askan Zigbia Tayoro nous livre les premiers éléments de réponse.
Air Congo, né en décembre 2024 et Congo Airways, créé en 2014, cohabitent, suscitant interrogations sur leurs rôles respectifs. D'aucuns ne doutent qu'en ces jours, Air Congo est la nouvelle compagnie porte-drapeau national. Dans son actionnariat, l'État détient 51%, Ethiopian Airlines 49%. Elle dessert des lignes régionales et depuis le 1er juillet 2026, relie Kinshasa-Bruxelles, un retour dans le ciel européen après 25 ans d'absence. Par ailleurs, Congo Airways, elle incarne l'ancienne génération. D'après le ministère de Transport, l'État y est principal actionnaire avec 40% aux côtés de la Caisse nationale de sécurité sociale, Chekamine et Régie des voies aériennes RVA. Mais actuellement, selon les témoignages de son personnel, la compagnie aérienne Congo Airways est clouée au sol. Sa situation est très critique, bien qu'un plan de relance ait été lancé pour tenter de la sauver. Une reprise timide en 2025 n'a pas dissipé les doutes. La ligne de démarcation est réelle, pas vraiment une concurrence, plutôt une succession. Air Congo bénéficie du savoir-faire d'Ethiopian Airlines pour éviter les erreurs du passé. Congo Airways, sans licence pour l'Europe, semble condamné à disparaître d'après certains analystes du domaine. En clair, l'État mise sur le nouveau fleuron, tandis que l'ancienne compagnie navigue en eau trouble. L'avenir d'Air Congo s'écrit, celui du Congo Airways semble s'effacer au fil du temps.
Information pliée, plus de 20 personnes, parmi lesquelles des professionnels de santé primés le week-end à Kinshasa. Cela fait suite à leur contribution à la prise en charge des cancers gynécologiques en RDC. Ces personnes, ça veut dire 20 au total, ont reçu leur distinction lors de la première édition de la soirée des galas intitulée Prix d'excellence Boigna RDC. À l'initiative du club gynécologie obstétrique et autres initiatives, cette activité visait à encourager la lutte contre les cancers dans les pays. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Célébrer les héros de l'ombre, ensemble vers une santé équitable et un avenir sans cancer », cette soirée a constitué un cadre pour honorer tout ce qui œuvre à la promotion de la santé et à la lutte contre les cancers en RDC, comme l'a indiqué l'initiateur du programme Prix d'excellence Boigna, Dr Ali Machala.
Ce qui compte, c'est pas le trophée, c'est pas le certificat qu'on remet. Ce qui compte vraiment, c'est cette reconnaissance aux yeux de tout le monde. Ben écoutez, cette personne se sent honorée. Elle fait 20 ans, elle fait 25 ans, elle fait 30 ans dans la lutte.
À cette occasion, l'un des lauréats, Dr Philippe Chimpi, a encouragé chacun à s'impliquer dans la riposte contre les maladies cancéreuses et dans l'amélioration de leur prise en charge à travers les pays.
Pour les patients qui ont un cancer, qu'on facilite sa prise en charge. Aller à ce que le cancer puisse être pris en charge totalement et gratuitement dans notre pays.
Pour sa part, le secrétaire général à la santé publique a annoncé la construction d'un centre national de lutte contre les cancers afin de sauver des vies.
On doit arriver à construire un centre national de lutte contre les cancers.
Le directeur du centre national de lutte contre les cancers, Docteur Bienvenu Les Boisés regrette que la majorité des patients consultent à un stade avancé de la maladie, moment où les options thérapeutiques curatives sont extrêmement limitées.
Actualité internationale.
Une panne de courant généralisée est en cours à Cuba Elle est survenue dans la nuit du dimanche à lundi 3 août, ont fait savoir les autorités, alors que l'île est soumise à un blocus pétrolier américain. La compagnie d'État Union Electrica a signalé sur les réseaux sociaux une déconnexion totale des systèmes électriques nationaux qui a plongé les pays dans l'obscurité, y compris la capitale, la Havane. Le ministère de l'Énergie et des Mines a précisé sur X que la coupure avait eu lieu à 22h, soit 10h43 GMT de ce lundi, et que tous les protocoles pour le rétablissement du système électrique avaient été activés.
L'invité.
La campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales se poursuit en Bujimaï au centre hospitalier presbytérien dans les pavillons Fistula Clinique. C'est une structure spécialisée dans la prise en charge de cette pathologie au Kasaï oriental. Plus de 20 femmes ont déjà été opérées depuis le début de l'opération. La campagne s'achève à la fin du mois d'août. Docteur Jean-Pierre Lukoji appelle toutes les femmes vivant avec une fistule obstétricale à se présenter pour une prise en charge, même après la clôture de cette campagne de réparation gratuite. Docteur Jean-Pierre Lukoji s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Jean-Pierre Lukoji.
Bonjour, madame journaliste Ndalafina.
Oui, docteur Jean-Pierre Lukoji, vous êtes déjà en pleine campagne de réparation de fistules. Oui. Comment est-ce que cette campagne se déroule ici chez vous?
Merci beaucoup pour la meilleure question. Je vous informe d'abord d'avance que ce n'est pas la première campagne. C'est depuis 2020 que nous organisons les campagnes chaque fois. Ce n'est pas l'hôpital qui organise, sont des partenaires. Parce que nous avons un partenaire, c'est INFP. Et INFP peut nous amener d'autres partenaires comme Fondation Vodacom. Cette année, nous avons déjà fait la première campagne qui a pris fin au mois de mai. Fondation Vodacom a jugé bon qu'on puisse continuer afin qu'on opère 50 cas qui restaient. Parce qu'il y a mode campagne et puis mode routine ici chez nous. Mais comment la campagne se déroule? D'abord, je commence avec mode routine. Fistula Clinique, Kasaï Oriental, c'est moi-même le point focal. Je suis là pour la réparation des cas de fistules obstétricales, même de fistules traumatiques, fistule congénitale aussi. Chaque fois quand il y a des cas, en mode routine, les cas viennent, on consulte et puis nous planifions, nous opérons. Mais en mode campagne, comme nous sommes maintenant en mode campagne, les cas viennent. Nous avons un système de triage. Les malades qui sont venus juste pour les cas de fistule sont orientés parce que ça ne vaut pas la peine de poser tant de questions. Par l'odeur, le personnel sont déjà rodés. Le malade sera consulté par moi-même et puis planifié avec mon équipe afin qu'on puisse opérer ces cas. Alors, en mode campagne, comme nous opérons, je vous dis que l'opération est gratuite, la prise en charge elle est gratuite aussi, les médicaments tout nous donnons parce que c'est un problème de fistule, on ne peut pas laisser ou abandonner les dames, c'est comme ça que nous opérons. Vous-même vous avez vu, il y a beaucoup de cas, quand nous opérons ces 50, les restes des cas nous allons basculer ça dans le mode routine, c'est comme ça que la campagne s'est déroulée.
Quelles sont les modalités de prise en charge?
Modalités de prise en charge, une fois que le cas est venu, nous avons consulté, il y a des cas que nous allons hospitaliser. Une fois hospitalisé, nous allons programmer les jours où il faut opérer. Une fois opéré, il y a des fistules qui font 10 jours. Il y a des fistules qui peuvent aller jusqu'à un mois. D'autres même font 2 mois de prise en charge parce que si c'est une fistule recto-vaginale, dont la matière fécale passe par même le vagin. Mais modalité, c'est tout cas de fistules obstétricales, même fistules congénitales, fistules traumatiques. Nous prenons en charge dès que le cas est confirmé.
Quels sont les avantages de la campagne pour les patientes? Hein?
Pour les patientes, oui. Ça veut dire quoi? Les partenaires prennent soin de l'appui nutritionnel, de médicaments, des kits de réinsertion. Donc, ça veut dire quoi? Une patiente que nous avons opérée gratuitement, il y a les médicaments, il y a tout qu'on donne par le partenaire. Dès qu'elle est guérie, il y a les kits de réinsertion. Donc, on donne l'argent, une somme quelconque. On lui donne pour commencer. Si elle faisait ses commerces, elle va commencer ses commerces. Celle qui ne faisait rien, elle peut juste avec cet argent faire ses commerces ou faire d'autres activités qu'elle ne faisait pas. Parce que vous voyez, la plupart sont des dames déjà renvoyées par leur mari, abandonnées par la famille. Avec cet argent, l'équipe de réinsertion, la dame doit rentrer faire ses activités afin qu'elle puisse se retrouver. Et dans l'équipe d'unité aussi, il y a des pagnes, il y a un peu de vêtements qu'on donne à chaque femme guérie.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Merci, ça c'est une belle question. Les difficultés sont nombreuses. Imaginez, c'est depuis 2020 que nous sommes ici au Kasaï. Nous avons installé Fistula Clinique pour aider les dames. Parce que jadis, les dames se donnaient la mort. D'autres étaient réputées des histoires. Elle a eu peut-être accouché avec d'autres hommes, des choses comme ça. Donc c'était une catégorie de femmes marginalisées. Mais dès que nous avons installé, il y a des dames qui nous appellent, des milliers très riches. Donc la difficulté, nous manquons le moyen de transport, nous manquons les kits informatiques pour l'archivage. Nous sommes là, si nous manquons les partenaires, c'est fini. Donc c'est difficile qu'on fasse la réparation. Raison pour laquelle nous lançons aussi un cri d'alarme aux gens de bonne volonté, surtout au gouvernement, n'est-ce pas, de voir aussi ça. Il y a aussi l'aspect des bâtiments. Nous n'avons pas de salles. Nous avons cette bonne volonté d'aider nos mamans, d'aider nos sœurs, mais nous n'avons pas un endroit. Le gouvernement fait quand même nous construire un bâtiment digne. Je peux aussi demander à notre première dame, notre maman, de pouvoir quand même faire quelque chose au Kassai. Juste nous construire, on ne demande pas beaucoup de choses. Nous construire un bâtiment ici pour la réparation de fistules. Et nous serons quand même joyeux.
Docteur Jean-Pierre Lukoji, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame Dalafina, d'être chez moi.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal coordonnée par Lievin Mbuinga. Alengo était à la partie technique. René Lintibonera, j'étais à la présentation.